que c'est le marketing de réseau? Qui c'est qui pourrait expliquer rapidement ce que c'est que le marketing de réseau? Personne. En fait, je crois qu'un des principes du marketing de réseau, c'est d'être un des premiers. Parce qu'en fait, on va essayer d'avoir des clients, puis on va essayer de lever d'autres vendeurs, des vendeurs. Et l'avantage, c'est que le chiffre d'affaires des vendeurs, ce sera notre chiffre d'affaires. Et si eux-mêmes, à leur tour, ils ont des vendeurs en dessous d'eux, ils vont récolter des fruits, et moi, je récolterai aussi des fruits de leur travail. Ça, c'est un peu le marketing de réseau. Et je crois que dans ce que je vais vous dire ce matin, il y a un peu de ça. Alors pour commencer, je voudrais faire le lien avec ce que Donna a encore amené ce matin par rapport à la famille. Dans Éphésiens 2, verset 19, ou même on va commencer au verset 17. « Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. » Il est venu vous annoncer la paix à chacun. Dans nos temps troublés, dans les temps difficiles où nous pouvons vivre et dans les temps encore plus difficiles dans lesquels nous rentrons, je ne vais pas m'étendre là-dessus, il est venu annoncer la paix. La paix est un mot qui va nous paraître bien rigolo ce matin ou dans nos vies, et pourtant c'est une réalité. Hein, c'est souvent dans l'ouragan où c'est l'endroit le plus calme. C'est au cœur du tourbillon qui est l'endroit le plus calme. Et je crois que un des messages du Seigneur ces temps-ci, c'est ça. C'est « Je viens t'annoncer la paix ». Au travers de tous les tourbillons qui risquent d'arriver, sache que près de moi, il y a la paix. Et c'est le seul endroit où tu vas la trouver. De plus en plus. Car grâce à lui, nous avons accès les uns comme les autres auprès du Père par le même esprit. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sentait étranger? Et tu n'es plus étranger. Ou des résidents temporaires, hein, c'est ce que j'appelais visiteur. Tu n'es plus un visiteur. Tu n'es plus quelqu'un qui part, qui vient, qui repart. Mais tu es concitoyen des membres du peuple de Dieu. Tu fais partie de la ville de Dieu. Tu fais partie du royaume de Dieu, de l'entourage du Père. Il t'a mis près de lui, avec lui, et il n'a plus envie que tu t'en ailles. Vous faites partie de la famille de Dieu. Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, les prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. Amen. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Et ce qui m'a touché cette semaine, c'était une petite phrase que j'ai lue en passant dans un livre, et c'est « Abraham, notre père ». Est-ce que ça vous marque aussi cette phrase ? Abraham, notre père. Ces temps-ci, on parlait de la paternité de Dieu. Et je crois que Dieu nous y pousse encore à réaliser qu'il est père. Et il a une famille. Et qui dit famille, dit papa, maman. Bon, Dieu, on a appris hein, qu'il y a les deux caractères. Enfant. Mais qu'est-ce qu'il dit encore et que souvent on oublie dans la famille ? Il dit grand-père ou petits-enfants. Hein? Nous, notre vision, c'est souvent restreinte à la famille directe. Et ce matin, ce que j'aimerais, c'est réaliser qu'il y a plus que ça. Prenons dans Ésaïe 51, au verset 1. Écoutez-moi, vous qui recherchez le salut, qui vous tournez vers l'Éternel, regardez le rocher d'où vous avez été taillé et la carrière d'où vous avez été tiré. Oui, considérez donc Abraham, votre père, Sarah qui vous a mis au monde. Alors on se dit peut-être que Dieu parle à Israël, mais on ne se sent pas vraiment concerné. Pourtant, Dieu dit, écoutez-moi, vous qui recherchez le salut, est-ce que nous sommes de ceux qui recherchent le salut? Vous qui vous tournez vers l'Éternel, est-ce que nous tournons vers l'Éternel? Oui. Et Dieu dit, considère donc Abraham, ton père, Sarah qui t'a mis au monde. Car lorsque j'ai appelé Abraham, il n'avait pas d'enfant. Je l'ai béni et je lui ai donné de nombreux descendants. De nombreux descendants. Et qu'est-ce que l'Éternel va faire? Il va consoler Sion et de ses ruines, il aura compassion. Etc. Verset 4, prête-moi attention, mon peuple. Toi, ma nation, qui as ta loi dans mon cœur. Amen. Je crois vraiment que Dieu veut nous parler. Dieu dit, prête-moi attention, j'ai vraiment des choses à te dire et regarde, tu as quelque chose à regarder, il y a quelque chose que faut que tu prennes en considération. Il y a un endroit d'où tu viens, il y a un endroit d'où tu as été tiré, il y a un endroit où tu as été taillé et façonné et cet endroit, il remonte à loin dans le temps. Il remonte jusqu'à Abraham. En Abraham, Dieu a commencé une œuvre. Et si j'oserais dire avec mon image, je crois que c'est la tête du marketing de réseau. C'est là que Dieu a commencé quelque chose de précis. Qu'est-ce qu'il a fait avec Abraham ? Il a fait une. Nadine nous a parlé de l'alliance. Il a fait une alliance. Dieu a fait une alliance avec Abraham et il lui a dit, je fais de toi le père d'une multitude de nations. Tu auras une multitude de descendants. Et je veux que les nations soient bénies au travers de toi. Pourquoi je fais une alliance avec toi ? Parce que je veux te bénir toi, mais en plus, surtout, et je vois loin, je vois très loin dans l'espace et dans le temps, je vois des multitudes de nations que je pourrais bénir au travers de toi et de ta descendance. Et c'est comme ça que ça fonctionne, le marketing de réseau de Dieu. Il a établi un endroit, un lieu, où il faisait une alliance et proclamait une source de bénédiction à jamais. Et cette source de bénédiction écoule depuis Abraham au travers de sa descendance pour bénir. Et ce matin, on devons en avoir conscience de cela. Parce que nous sommes une nation, on l'a dit depuis longtemps, c'est vrai qu'on recherche des pères, et on s'est dit, mais on n'a pas de père. Et Dieu dit, mais tu as un père, que tu dois prendre conscience et connaissance. Romains 4, 11. Alors on s'est dit, ça c'est l'Ancien Testament. Hein. Certainement tu exagères un peu. Qui c'est qui a pensé que j'exagérais un petit peu ? Vous avez le droit. Moi-même, je me choque dans ce que je vous disais un peu. Je me dis, Abraham, mon père, Seigneur, t'exagères un peu. Et pourtant, Romains 4, 11. Dieu donna à Abraham le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait déjà reçue par la foi avant d'être circoncis. Il est devenu ainsi le père de tous ceux qui croient. Abraham est devenu le père de tous ceux qui croient. Alors même qu'il ne soit pas circoncis, pour qu'eux aussi soient déclarés justes par Dieu de la même manière. La source de la justice que nous avons remonte jusqu'à 4000 ans en arrière, au temps d'Abraham. En Abraham, Dieu a scellé une œuvre, il a fait une alliance, et il a dit, au travers de toi, je vais pouvoir rendre juste tous ceux qui croiront. Ce n'est pas que l'œuvre d'Abraham, on sait très bien que l'œuvre de justice a été accomplie en Jésus, mais sa source remonte jusqu'à Abraham. Il est devenu le père des circoncis qui ne se contentent pas d'avoir la circoncision, mais qui suivent l'exemple de la foi que notre père Abraham a manifestée, alors qu'il était encore incirconcis. Car la promesse de recevoir le monde en héritage. Vous vous rendez compte ? Je crois que cela doit marquer nos cœurs. Il y a une promesse, et ce n'est pas une promesse de petite bénédiction. Il y a une promesse de recevoir le monde en héritage. Tu veux la Chine en héritage, Johan ? Tu veux ? Hein ? Amen. Seigneur, nous réclamons la Chine comme héritage. Elle fait partie du monde. Et la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham. Et à qui ? Et à sa descendance. Postérité ou descendance. Moi, j'ai descendance. Amen. Nous avons des promesses qui sont en train de courir, qui sont en train de nager dans le sous-sol. Hein, vous savez que dans le désert d'Israël, il y a un sous-sol à quelques centimètres de la surface du sol. Il y a une nappe d'eau magnifique. Et j'ai vu des photos sur Internet. Ils ouvraient des piscicultures dans le désert. Avec de l'eau magnifique, il y a des poissons multicolores dans le désert. Pourquoi ? Simplement parce qu'il y a une nappe d'eau magnifique qui nage à quelques centimètres de la surface du sol. Eh bien, nous sommes sur un sol pareil. En tant qu'enfant du roi, nous sommes sur un sol, et dans le sous-sol, il y a des choses qui sont en train de couler. Et il suffit simplement de commencer à ouvrir des endroits et de créer des endroits où il y aura des endroits de pisciculture pour le roi. Et ces endroits de pisciculture vont remplir la terre. L'eau de la bénédiction va remplir la terre, l'eau des promesses. Nous sommes appelés à recevoir le monde en héritage. Amen. Galates 3, 9. Qui c'est qui veut encore une partie du monde en héritage ? Je crois qu'on ne peut pas partir trop vite, Johan. Amen. Seigneur, tu bénis nos deux, Johan. Bénédiction sur ce nom, grâce, gloire de Dieu sur ce nom et sur leur héritage, au nom de Jésus. Qui c'est qui veut encore du monde en héritage ? Émilie, David, tu veux la France, on te la partage. Un petit peu. L'Europe, amen. Seigneur, tu as entendu la parole de foi de David et on réclame l'Europe au nom de Jésus. Gérard.
Le monde musulman.
Le monde musulman. Ben, Seigneur, on te réclame le monde musulman. On dit qu'il fait partie de la promesse que tu as semée en Abraham, qui est en train de pousser, de germer et rester dans le sol très longtemps, papa. Mais tu es un Dieu qui attend, qui met une graine dans le sol et qui attend patiemment, comme le laboureur attend patiemment sur sa semence. Et il se réjouit parce qu'il sait que son jour viendra. Il sait qu'un jour la semence va porter son fruit, va germer et va devenir un arbre merveilleux. Et nous disons que le monde musulman, tu es la semence qui a été semée en terre et que tu es appelé à porter ton fruit et que tu es appelé à te réunir au peuple d'Abraham et à devenir la récolte du roi. Au nom de Jésus, ton temps viendra. Nous te le disons, ton temps viendra. Tu fais partie de l'héritage. Et nous disons qu'en tant que descendants d'Abraham, nous refusons de passer plus longtemps à côté de l'héritage. Cet héritage n'a pas été réclamé pendant des siècles, il a été oublié. Et nous disons maintenant qu'en tant que descendants d'Abraham, nous voulons commencer à réclamer nos héritages. Au nom de Jésus, nous sommes la vraie descendance d'Abraham, associée au peuple d'Israël. Et nous réclamons notre héritage. Galates 3, 9. S'il y a quelqu'un que je n'ai pas dit, ne te sens pas frustré, hein. Le Seigneur t'a entendu. Galates, je commence au verset 8. De plus, l'Écriture prévoyait que Dieu déclarerait les non-juifs justes par la foi. C'est pourquoi elle a annoncé par avance. L'avance de Dieu, c'est le marketing de réseau. Hein ? Il met quelque chose à la tête pour qu'après, tous ceux qui viennent greffer dessus en soient bénéficiaires. Ça coule. Il met une tête de pont. Et ensuite, il fait couler la bénédiction au travers d'elle pour que ça se ramifie partout. Amen. Tu seras une source de bénédiction. Tu seras une source, c'est la source, hein ? C'est la même idée. Source, c'est petit au début, et ensuite ça devient un petit filet d'eau qui court dans la montagne, et puis c'est un torrent, puis un fleuve, puis finalement il se jette dans la mer. C'est la source de bénédiction, c'est ainsi qu'elle agit. Pour toutes les nations. Ainsi, tous ceux qui font confiance à Dieu, comme Abraham, auront part à la bénédiction avec lui. On aura part à la bénédiction avec lui. Et nous ne pouvons pas passer à côté de la bénédiction. Parce que je vais vous dire une chose. La bénédiction n'est pas une possibilité, elle n'est pas une alternative, elle n'est pas une possibilité. Elle est la seule voie de Dieu pour notre salut. Elle est la seule voie de Dieu pour le salut du monde. En dehors de la bénédiction, il n'existe qu'une seule chose. Et elle s'appelle malédiction. Ou on rentre dans la bénédiction, ou d'office on est sous la malédiction. Le monde entier, la parole dit, est sous la malédiction du malin. Donc nous avons un pas à faire. La bénédiction ne va pas couler de source, si j'ose dire. Il faut y rentrer. Nous avons un pas à faire. C'est pas difficile, elle est juste à côté. C'est le pas à côté. Et l'eau, elle est dans le sous-sol. Il y a un seul pas à faire. Mais on a juste à le faire par la foi. C'est un pas qu'on doit choisir tout seul. Verset 14. Le Christ, je commence au 13. Le Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous, et il a pris la malédiction sur lui, à notre place. Il est en effet écrit « Maudit est quiconque est pendu sur le bois ». Jésus-Christ l'a fait pour que, grâce à lui, la bénédiction d'Abraham s'étende jusque sur les non-juifs et que nous recevions par la foi l'Esprit que Dieu avait promis. Christ a pris la malédiction, c'est pour ça que nous avons juste le petit pas à faire pour détourner et rentrer dans le chemin de la bénédiction d'Abraham. Verset 16. C'est à Abraham et à sa descendance, c'est souligné chez moi, que Dieu a fait ses promesses. Il n'est pas dit « et à ses descendances », comme s'il devait y avoir plusieurs lignées pour bénéficier de ses promesses. C'est un mot que j'ai à cœur ce matin, c'est la lignée. J'ai la version du semeur, comme s'il devait y avoir plusieurs lignées pour bénéficier de ses promesses. À ta descendance ne désigne qu'une seule descendance, et c'est le Christ. Eh bien, je dis ceci. Une alliance était conclue par Dieu en bonne et due forme à la manière d'un testament. La loi est survenue 430 ans plus tard, et ne peut pas annuler l'alliance et réduire par là même la promesse à néant. Nous proclamons qu'il y a une alliance qui coule avec une bénédiction. Au nom de Jésus. Verset 29. Vous êtes unis à Jésus-Christ et vous êtes tous un. Si vous lui appartenez, vous êtes alors la descendance d'Abraham et donc aussi les héritiers des biens que Dieu a promis à Abraham. Amen. J'ai dû oublier quelque chose dans Romains 4. Voilà, oui, j'ai oublié une partie des versets. Verset 17. Je commence au verset 16. Romains 4. Voilà pourquoi l'héritage est promis à la foi. C'est pour qu'il y ait un héritage promis, nous devons garder ces choses dans nos cœurs. Il y a une promesse, hein. Tout est basé sur cette promesse. C'est pour qu'il soit un don de la grâce. Ainsi, la promesse se trouve confirmée à toute la descendance d'Abraham, c'est-à-dire non seulement à celle qui est sous le régime de la loi, Israël, qui est une descendance d'Abraham, qui a part à toutes les bénédictions et toutes les promesses de Dieu. Dieu n'a pas changé, elle reste valable, mais aussi à toutes celles qui partagent la foi d'Abraham. Il est notre Père à tous. Comme le dit l'Écriture, « Je t'ai établi pour être le Père d'une multitude de peuples. » Placé en présence de Dieu, il mit sa confiance en celui qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Alors que tout lui interdisait d'espérer, il a espéré et il a cru. Ainsi, il est devenu le Père d'une multitude de peuples, confirmant ce que Dieu lui avait dit, « Ta descendance sera nombreuse. » Il est notre Père à tous. Nous devons savoir, souvent, en tant que chrétien de ces dernières générations, on a appris, tu sais, tu étais pécheur, tu étais perdu, il faut que tu te repentes. Et à partir du moment où tu te repentes, tu deviens chrétien. Et on a cru que notre vie commençait à ce moment-là. On a cru que tout commençait là. Et qu'à partir de là, ben, on allait commencer à marcher, il y a des choses qui allaient commencer à venir. Comme si tout commençait là. Qui est-ce qui pense que Dieu était déjà avec lui avant d'être converti? Amen. Moi, j'ai rencontré un pasteur qui était catholique avant, et il m'a dit que sa maman, quand elle attendait, le papa est parti, il l'a abandonné. Toute sa famille voulait qu'elle avorte. Elle est sortie dans la forêt, elle a crié à Dieu, elle a dit, « Seigneur, moi je crois, en tant que catholique, je pourrais avorter, mais je crois que cet enfant un jour peut t'appartenir, et qu'un jour il peut te servir, et alors je veux le garder. » Et cet enfant, il a grandi, et à 33 ans, il a rencontré un groupe de chrétiens. Il a pu se convertir, il est devenu pasteur. Mais il m'a dit, « Mais je sais que toute ma vie, le Seigneur a été fidèle. S'il y a un mot que je dois retenir de Dieu, c'est fidèle. Parce que je sais que de toute ma vie, il a veillé sur moi, il était avec moi. Ta vie avec Dieu n'a pas commencé au jour où tu penses que tu t'es converti. Ta vie avec Dieu, elle a commencé au jour de ta conception. Elle a démarré même avant, parce que de toute éternité, Dieu te voyait et te connaissait. Et son regard était sur toi. Et ce que je voudrais aller dire maintenant, c'est que ta vie n'a pas, au moment donné, en fait, où toi, tu as mis ta foi dans Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Il t'a mis dans sa famille. Et qu'est-ce que c'est la famille de Dieu? La famille de Dieu est une descendance qui a sa tête en Abraham. Le Seigneur t'a mis dans la lignée d'Abraham. Il t'a mis dans une lignée. La lignée est une notion que nous avons perdue beaucoup. Je me sens que c'est peut-être à la République, au moment de la République. Avant, la lignée avait beaucoup de force. On savait de qui on était fils. Israël, on est peut-être étonné de toutes les généalogies. Est-ce que vous avez déjà remarqué? Toutes les généalogies de père en fils. Israël est marqué par sa descendance. Ils savent de qui je suis fils. Je sais de quelle tribu j'appartiens. Je sais d'où je viens. Je sais quel est mon père d'origine. Je sais tout. Eh bien, nous, on ne sait plus. Et quelque part, on est comme un grain de poussière perdu là, au milieu. Et on se dit, bon, ben, je suis chrétien, je fais ma petite vie. J'essaie d'amener peut-être mes enfants au Seigneur. Puis voilà, quoi. Et on n'a pas connaissance et pas notion qu'on était inscrit dans une lignée. Et il y a une lignée physique qui court en Abraham. C'est Israël. Mais il y a une lignée spirituelle. Regardez, Matthieu, par quoi il commence? Par quoi commence Matthieu? On se dirait qu'avec le Nouveau Testament, la notion de lignée et de descendance est un peu abandonnée. Hein? C'est ce qu'on aurait plus ou moins tendance à penser. Moi, je connais mon papa, un petit peu mon grand-père, et puis après là, je n'ai plus aucune notion. Loin de là d'un fils d'Israël, de ne pas savoir d'où il vient, pas savoir de qui il descend. Même Jésus. Regardez, par quoi commence Matthieu? Par la descendance, ou l'ascendance, on pourrait dire, de Jésus. Jésus ne vient pas plat comme un clou au milieu d'une planche par hasard, il vient dans une lignée. Jésus a placé même sa propre naissance dans le Nouveau Testament dans une lignée. Et elle commence où la lignée ? Abraham eut pour descendant Isaac. Isaac eut pour descendant Jacob. Jésus, il se déclare fils d'Abraham, fils de David. Il dit, je suis là comme un héritier des promesses. Mais non seulement je suis l'héritier des promesses, je suis l'accomplisseur des promesses. C'est au travers de moi que les promesses qu'Abraham a reçues s'accomplissent dans la vie de tous ceux qui croient en moi. Et c'est comme si là, il y a une descendance qui vient jusqu'à Jésus, et ensuite il y a comme une séparation. La lignée physique va continuer, et il y a une lignée spirituelle qui démarre en Jésus. Mais elle ne vient pas de nulle part. Elle a accroché une lignée à la lignée d'Abraham. Et elle continue l'héritage des promesses. Et cette lignée, on doit savoir qu'on en fait partie. Et quelque part, il me semble qu'il y a un appel de Dieu à retourner à nos pères. Vous avez vu par quoi commence le Nouveau Testament ? Par la lignée de Jésus. Par quoi se termine l'Ancien ? Malachie 3. Verset 27. « Voici, je vous envoie Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et terrible. Il tournera le cœur des pères vers leurs fils et des fils vers leurs pères, de peur que je vienne frapper le pays pour le dévouer par interdit. » Le Seigneur ne veut pas dévouer notre pays par interdit. Et il est en train de faire une œuvre pour retourner le cœur des fils vers leur père. Nous avons appris qu'il y a beaucoup de prières qu'on doit faire pour nous délivrer de malédictions transgénérationnelles. Donna, elle a beaucoup souffert ces temps-ci. On a pu prier avec Albert et Paulette. Et on a prié contre des malédictions qui peut-être venaient de loin, de plusieurs générations en arrière. Et on sait qu'il y a des malédictions qui peuvent se transmettre de génération en génération. Et nous sommes dans un temps où le Seigneur veut nous délivrer des malédictions générationnelles. Alors nous devons aller vers des ministères reconnus et prier ensemble pour que ces choses se brisent dans nos vies. Mais je crois aussi que Dieu est en train de nous dire, c'est vrai qu'il y a des malédictions, mais c'est vrai aussi qu'il y a des bénédictions. J'ai placé des bénédictions dans ta lignée. Il y a des bénédictions qui viennent de tes pères. Même mon fils s'est réclamé comme fils de David. Il a dit, tu me feras hériter des promesses de David. Si vous lisez Isaïe 49 et Actes 13, Jésus s'est réclamé des bénédictions des pères, des bénédictions de David. Et il était fils d'Abraham. Il est celui qui accomplit la promesse en Abraham. Les promesses, il les a réclamées, il les a voulues. Et il a dit, je veux hériter de mes promesses. Je veux les nations en héritage. Je veux le monde en héritage. Il a réclamé son dû. Et il a dit, mais c'est en moi que ça s'accomplit. Et aujourd'hui, le Seigneur nous dit, réclame mes bénédictions. Retourne vers tes pères. Retourne vers tes pères. Retourne vers tes pères dans ta lignée physique. Renoue des liens avec ton papa. Dans la mesure que tu peux, dans la mesure du possible, renoue les liens. Renoue les liens vers tes papas générationnels. Il y a des choses qu'on peut faire. Ça, c'est le Seigneur de nous guider chacun, de nous apprendre, il va nous montrer. Découvre, il y a des bénédictions qui sont dans tes pères. Et si tu ne peux pas savoir, en tout cas, il y a un père qui remonte jusqu'à 4000 ans en arrière, Abraham. Il est dans ta lignée, il est ton père. Et en lui, j'ai semé une bénédiction pour que ça descende jusque dans ta propre vie. Tu peux la réclamer. Mais dans ta lignée spirituelle aussi, retourne vers tes pères. Je crois qu'il y a des pères vers lesquels on doit retourner. En tout cas, rien que par la foi, simplement dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour ceux qui m'ont enseigné. Merci Seigneur pour ceux qui ont eu un impact dans ma vie. Merci Seigneur pour ceux qui ont impacté ma vie par leurs enseignements, par leur foi, par leurs prières. Nous devons retourner vers nos pères. Et nous devons apprendre à recevoir la bénédiction qui est dans nos lignées. Amen. Alléluia, Jésus. J'essaie de reprendre un peu le fil dans mes papiers. Alléluia. Je voulais juste parler d'un verset en particulier, rapidement. Il y a un verset qui dit « La grâce nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. » Ce que Dieu a fait en Abraham, c'est physiquement ce qui s'est passé dans les lieux célestes, dans l'esprit. Avant que le monde soit, le Seigneur avait réservé un endroit où il a placé la grâce. comme une source de bénédiction. Elle a été scellée en Jésus-Christ pour un jour couler sur nos vies. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'il savait que l'ennemi allait venir, nous détourner de notre but, nous perdre, etc., et nous gâcher nos vies. Et le Seigneur, il avait placé en Jésus-Christ toute la grâce, afin que cette grâce, un jour, soit libérée. Elle était libérée quand ? À la mort de Jésus sur la croix. La grâce a été de la croix à la grâce coule. De la croix à la grâce coule. Et c'est comme un immense fleuve qui est encore retenu parce qu'il y a des bénédictions qu'on n'a pas appris à recevoir. Mais la grâce coule. Et cette grâce veut couler dans nos vies. Le Seigneur dit, j'ai gardé la grâce pour toi depuis des années, des siècles en arrière. Elle est là, elle t'appartient. En dehors de ma grâce, il n'y a rien pour toi dans ta vie. Tu ne peux rien sans ma grâce, tu ne peux pas la moindre chose. Par ma grâce, tu viens au salut. Par ma grâce, tu es restauré, tu es sauvé. Et par ma grâce, tu accomplis ta destinée. Par ma grâce, tu rentres dans les choses que Dieu a préparées d'avance pour toi. Reçois ma grâce en abondance. Elle a été préparée dès avant les temps éternels. Elle est pour toi aujourd'hui. Reçois-la. Marche dans ma grâce. Plonge dans ma grâce. Vis de ma grâce. Reçois-la jour après jour. Apprends à te faire grâce. Fais-toi grâce. Quand nous nous faisons grâce, c'est une façon d'ouvrir la porte à la grâce dans nos vies. Parce que Dieu nous a fait grâce depuis toujours. Il n'y a rien que Dieu retienne contre nous. Dieu n'a pas un placard dans un coin pour un jour te dire « Ah, tu croyais que tu étais arrivé ? Regarde le placard, il y a encore plein de trucs que j'avais en réserve pour te casser. » Il n'y a aucun placard dans le Seigneur. Tout, au contraire, il a tout fait pour mettre tout notre péché, toute notre misère au même endroit. Et que tout le poids de la colère et de la malédiction est tombé sur Jésus en une fois. Il a tout mis là. Il a cherché, je crois que le Seigneur a cherché la petite bête. Il a tout cherché, tout ce qu'il pouvait trouver pour le mettre là à la croix. Il a tout renfermé, l'Écriture dit qu'il a tout renfermé sous le péché. Et le péché, il a fait tomber en Jésus, il est devenu péché pour nous. Tout, il a tout rassemblé là. Et tout ce que l'ennemi pourrait mettre sous tes yeux, tu peux te dire qu'un jour ça a été mis à un endroit précis. C'est devenu péché et c'est devenu péché en Jésus. Et Jésus est mort. Et depuis, en dehors, il ne reste que la grâce. Il ne reste que la grâce, c'est tout ce qui reste. Dieu n'a que la grâce à t'offrir. À partir du moment où tu crois en Jésus, tout ce que Dieu a pour toi, c'est grâce. Grâce, grâce. Et il cherche comment te faire grâce. Il cherche comment te bénir. Il cherche comment te faire du bien. Il a dit à Ephraïm, alors qu'Ephraïm était devenu vraiment un peuple terrible, qui tuait des enfants, etc., qui adorait des dieux étrangers, mauvais, il a dit, je cherchais comment faire de toi un enfant chéri, comment te bénir, comment te mettre dans ma famille. Dieu n'a que sa grâce à t'offrir. Mais il te dit, toi, prends, reçois. Apprends à recevoir, cherche comment recevoir. Et une des portes, une des clés, fais-toi grâce. Cherche dans ta vie des domaines où tu peux te faire grâce. Cherche des domaines dans ta vie où tu sais qu'il y a quelque chose de pas bon, quelque chose de pas bien, et tu le prends comme un trésor, comme un trophée. C'est mon trophée. Là où l'ennemi justement aurait voulu mettre... Vous savez, quand on est blessé, si on est en duel avec un ennemi, il sait qu'on est blessé là, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va mettre le poing là. T'as mal là ? Ah ! C'est là, j'appuie. J'appuie là, je sais que t'as mal. Et l'ennemi fait ça avec ta vie. Ah, t'as mal là ? Attends, moi je vais te faire encore plus mal, j'appuie là. J'ai qu'une envie, c'est de te faire le plus de mal possible. Ben cette douleur, maintenant, tu la prends. Tu la prends comme un trophée. C'est peut-être ton propre péché. C'est ta propre misère, ben, c'est sûr. Hein. C'est là où ça, on a le plus mal, c'est avec nos propres péchés à nous. Et le péché de nos proches. Et le Seigneur dit, ben ça, tu le prends. Tu me le donnes à moi. Parce que je l'ai déjà pris, j'ai été fait péché pour toi. Et maintenant, tu te fais grâce. Et quand tu te fais grâce, tu ouvres la porte au déluge de grâce dans ta vie. C'est un endroit où le Seigneur il se réjouit parce qu'il peut venir avec sa grâce. Et là où il y avait le point dur, là où il y avait la blessure, là où il y avait quelque chose qui devenait comme un obstacle entre toi et ton Dieu, eh bien, la grâce peut venir habiter, couvrir. Et alors maintenant, une fois que tu as fait ça, un autre, il faut que tu en trouves un autre. Il faut que tu trouves le prochain point dur à apporter à Jésus pour que lui il puisse commencer à venir et le prendre et mettre sa grâce. Cherche les endroits dans ta vie où tu peux te faire grâce. Cherche aussi dans ta vie des endroits où tu peux faire grâce à ceux qui sont autour de toi. Prends-les maintenant. Et là où tu te disais, mais c'est un pieu terrible dans ma vie. Et quelque part, tu t'accrochais à ce pieu et tu n'étais pas libre. Et bien maintenant, ce pieu, tu le donnes à Jésus. Et tu dis, Seigneur, je te le donne, je pardonne, je fais grâce, j'ouvre la porte de la grâce, je fais grâce. Et alors, dans ce cas-là, et là, c'est comme une porte ouverte, un fleuve de grâce qui coule encore dans ta vie. Et un nouveau pieu de grâce dans ta vie, un nouveau point de grâce, une nouvelle source de grâce dans ta vie. Et elle va couler pour toi et elle va couler pour d'autres. Nous sommes appelés un peuple appelé à la grâce, un peuple de grâce. Nous sommes si faciles à critiquer, à juger. Et on a déjà vu qu'en dans la prière, on a vu que le jugement et la critique pouvaient devenir des carcans de prison dans nos vies. Quand on nous critique, quand on nous juge, et peut-être aussi quand nous on juge et quand on critique, ce sont des barrières qu'on met sur nos vies. Parce qu'on sait que ça, on a appris que ça, c'est un des héritages qu'on a reçus. Et le Seigneur nous dit, délivre-toi de cet héritage, délivre-toi de la bouche de malédiction. Et là où tu auras envie de maudire et de dire du mal, délivre la grâce. Délivre la grâce par la foi, pas avec ce que tu vois, mais délivre la grâce parce que la grâce va couler dans ta vie, va remplir chez toi et va remplir chez d'autres, et va délivrer d'autres. Amen. Alléluia, Jésus. J'aimerais passer à une autre petite partie, si vous m'accordez encore quelques minutes. Qui c'est qui m'accorde ? J'ai entendu une belle blague une fois. Qui c'est qui m'accorde encore 2 minutes ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça me fait 2 fois 36 minutes. Super. J'ai bien aimé. On est héritier d'une bénédiction. On est héritier, on est rentré dans une lignée, dans un héritage, et nous devons nous réclamer de cet héritage. Et nous devons découvrir dans la parole tout ce que l'alliance contient. Si vous regardez la parole, le Seigneur vous décrit l'alliance et les bénédictions. Mais maintenant, il y a une deuxième partie à ça. Qu'est-ce que c'est ? Nous sommes des transmetteurs. C'est-à-dire que derrière nous, il y a une autre lignée qui vient. Nous sommes héritiers d'une lignée et nous sommes générateurs d'une nouvelle lignée derrière nous. Et ça, c'est une grande responsabilité. De la même façon que des pères ont pu transmettre sur nos vies des malédictions ou des bénédictions, maintenant c'est à nous de transmettre des malédictions ou des bénédictions. Et de la même façon, nous n'avons pas appris à voir derrière nous. Nous n'avons pas appris à voir. Juste, j'ai commencé à apprendre à voir pour mes enfants. Pendant longtemps, moi, j'ai cru que je n'aurais même pas d'enfants, etc. Maintenant, j'en ai. Et par la grâce de Dieu, j'ai reçu une merveilleuse famille. Et je sais que c'est une grâce, mais maintenant, Dieu dit, il faut que tu commences à voir plus loin. Il faut que tu commences à voir dans tes héritiers, derrière eux. Il faut que tu commences à voir tes petits-enfants. Il faut que tu commences à voir tes arrière-petits-enfants. Et il faut que tu commences à semer des bénédictions dans tes familles descendantes. Tu as des semences à planter. Un jour, il y a des récabites qui sont venus et qui ont demandé une part d'héritage. Et je ne me rappelle plus tout, je n'ai pas été voir. J'ai sais simplement que le Seigneur a reconnu quelque chose. Il a dit, leur père leur avait dit quelque chose. Et de génération, je crois qu'ils avaient dit de ne pas boire de vin. Et puis autre chose. Et le Seigneur a honoré, il a dit, leur père leur avait dit ça. Et ils ont obéi strictement à ce que leur père avait dit au travers des générations et des générations. Et maintenant, je les bénis. Et je dis maintenant qu'il y a une bénédiction là. Nous avons des bénédictions à transmettre, nous avons quelque chose à transmettre. Nous sommes responsables de cela. Semons, cherchons comment bénir notre descendance. Psaume 78. Je vais essayer de faire court, puisque effectivement le temps a passé. J'avais beaucoup de choses à dire, mais vous me pardonnez s'il y a des fois où ça saute un petit peu rapidement. Mon peuple, le Seigneur nous parle encore, comme dans Ésaïe. Écoute mon enseignement et sois attentif à ce que je vais te dire. Je vais parler en parabole. Je vais te dire des secrets qui viennent du passé. Nous avons entendu, nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Un héritage des pères. Nous savons ce que nos pères nous ont raconté. C'est une partie importante. Qu'est-ce que nos pères nous ont raconté ? Et c'est vrai que nous-mêmes, est-ce que nous avons beaucoup reçu de nos pères ? Nous avons reçu une partie, il y a comme plein de choses que nous savons que nous n'avons pas reçues. Mais le Seigneur veut racheter ça. Il veut racheter ce que nous n'avons pas encore beaucoup appris. Il veut nous réapprendre les choses. Et qu'est-ce que nous faisons ? Nous n'allons pas le cacher à nos fils. Il y a un héritage et une transmission. Et c'est quelque chose que nous devons avoir maintenant constamment à la pensée. Qu'est-ce que je reçois? Qu'est-ce que je transmets? D'où je viens? Où je vais? Qu'est-ce qui est avant moi? Qu'est-ce qu'il y a après moi? Nous ne sommes pas plantés là au milieu d'un, comme un îlot au milieu de l'océan. Le Seigneur, il avait pour nous il a une vision globale. Il avait pour nous une destinée. Il nous voyait dans une lignée. Il a une vue qui traverse le temps. Et nous devons prendre conscience de cette lignée. Que nous sommes une famille, que nous sommes reliés les uns aux autres, et nous sommes reliés à une lignée. Nous devons savoir de l'héritage de nos pères. J'ai oublié de dire même, prendre connaissance des pères des Huguenots, hein, puisque les Huguenots, il y a un héritage précieux que le Seigneur est en train de réveiller, parce qu'il veut nous bénir, il veut bénir notre pays, et des nations au travers de cet héritage, et des pères de l'Église, etc., jusque là où on peut remonter. Mais aussi maintenant, nous devons prendre conscience qu'il y a derrière nous un héritage. Dieu veut bénir des générations au travers des pas, des choses que nous faisons aujourd'hui, des choses que nous établissons, que nous choisissons. Nous redirons à tous ceux qui nous suivent les œuvres glorieuses de l'Éternel et sa puissance et ses nombreux prodiges. Il a fixé une règle en Jacob, une loi. Il a ordonné à nos ancêtres d'enseigner à leurs enfants. Il a ordonné d'enseigner. Qui c'est qui cherche la volonté de Dieu? Quand le Seigneur dit qu'il ordonne, qu'est-ce qu'il fait? Il ordonne. Il ordonne d'enseigner. Afin que la génération suivante, le Seigneur a à cœur la génération suivante, et la génération d'après, et la génération qui vient derrière. Afin que la génération suivante, celle des enfants qui viendront à naître, puisse l'apprendre et se lève à son tour pour l'enseigner à ses propres enfants. Que une génération se lève pour enseigner. Afin qu'ils placent leur confiance en Dieu, qu'ils n'oublient pas les hauts faits du Dieu fort et qu'ils observent ses commandements, qu'ils ne ressemblent pas à leurs ancêtres, à leurs pères, des générations indociles et rebelles, des générations au cœur inconstant, qui n'étaient pas fermes, dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Si nous voulons des générations derrière nous qui soient fidèles, constantes, dont l'esprit est fidèle à Dieu, le cœur attaché à Dieu, nous devons les enseigner. Vous savez qu'aujourd'hui, si vous me permettez ce lien, c'est le séminaire Mathurin Courdier, c'est-à-dire un séminaire sur l'éducation chrétienne. Vous savez qu'on a un mandat en tant qu'Église Josué pour l'éducation chrétienne. Martin Scott l'a redit l'an dernier, notre premier mandat, c'est l'éducation chrétienne. Mais ce n'est pas un petit jeu, ce n'est pas une lubie, ce n'est pas un hobby, ce n'est pas une bonne idée que quelques-uns ont eue. C'est le cœur même de Dieu. Il est là, dans le psaume 78. Quand moi j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Un jour je devais décider, j'étais un an dans le public, comme maître auxiliaire, et je devais dire, je fais quoi? Je continue ou je vais dans l'école chrétienne? Et je me dis, Seigneur, je ne sais pas où est le chemin, il faudrait que tu me parles par ta parole. Je ne connaissais pas ce psaume, et c'est sur ce psaume que je suis tombé. Et pour moi ça a été clair. Le Seigneur disait, il y a un travail à faire. J'ai ordonné d'enseigner à vos enfants. Et alors souvent on se dit, mais les écoles du dimanche, elles enseignent très bien. Les écoles du dimanche, c'est peut-être une heure dans la semaine, avec quelques minutes dans le reste de la semaine, par rapport à des enfants qui sont 24 heures à 30 heures par jour, par semaine, devant des enseignants. Comment ils apprennent les enfants? Par leur modèle. Et si leur modèle, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, qui se moque de Dieu, qui ne croit pas en la parole, qui ne te respecte pas en tant qu'enfant, le Seigneur, il a dit, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. N'y a-t-il pas souvent du mépris? Même souvent, nous, quand on quel est le regard qu'on a sur les enfants? Est-ce qu'on les prend en compte comme ils devraient être pris? Dieu les aime autant que nous. Ils sont aussi précieux que nous. Ils sont l'Église autant que nous. On a souvent dit, les enfants, c'est l'Église de demain. Mais pour ma part, je crois que ce n'est même pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Ils sont l'Église d'aujourd'hui. Ils sont l'Église autant que nous. Jésus, il est dans la salle des enfants là-bas. Et il habite les enfants autant que nous. Ils sont aussi importants que nous. Le temps qui est là-bas est aussi important que le nôtre. Ce que Geneviève dit aux enfants est aussi important que ce que je suis en train de partager. Les enfants sont des réceptacles de Jésus autant que nous, même peut-être plus que nous. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Les disciples venaient et disaient, Seigneur, qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Qu'est-ce qu'on aurait dit? Rick Joyner, les hommes de Dieu qu'on respecte, qu'on aime, qu'on honore. Le Seigneur, il a dit qui ? Nous, on aurait dit les disciples. Vous vous rendez compte, les 12 disciples qui ont transformé le monde ? Si vous êtes là aujourd'hui, c'est à cause des disciples. C'est parce qu'eux ont donné leur vie, qu'ils ont traversé, ils ont été dans les nations à pied. Ils ont traversé des mers, ils ont traversé des continents à pied. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là. Parce que Jésus a dit, mais c'est l'un de vous, c'est vous mes gars, vous mes disciples qui m'avez choisi depuis le début, vous avez tout quitté. C'est vous les plus grands dans le royaume de Dieu. Sans vous, je serais seul en ce moment. Hein, il n'a pas dit ça, Jésus. Il a pris un petit enfant, il l'a mis au milieu d'eux. Il a dit, mes gars, si vous ne savez pas devenir comme un de ces petits-là, vous n'entrerez même pas dans le royaume des cieux. Les plus petits parmi vous sont les plus grands. C'est en eux que je trouve mon plaisir. Et je vous préviens, les gars, faites gaffe. Parce que si jamais il y en a un qui fait du mal à l'un seul de ces petits, qui croit en moi, il vaudrait mieux qu'il prenne pour lui une pierre d'une tonne, qu'il accroche à son cou et qu'il se jette dans la mer. Ça vaut mieux pour lui, les gars. Je vous le dis d'avance, je vous préviens, faites gaffe. Matthieu 18. Soyez sérieux. Soyez sérieux. Et je pense que l'Église de Jésus a pris beaucoup à la légère l'enseignement des enfants. Et je voudrais dire, attention, Église de Dieu, si tu n'as pas des fois méprisé les enfants. Tu as peut-être tout fait pour avoir des écoles du dimanche. Elles sont géniales. Tu as même fait énormément de choses pour avoir des colonies chrétiennes. C'est super. Mais est-ce que tu as fait ce que moi j'avais dit ? De les enseigner, c'est quand les enfants sont petits qu'il faut que tu les enseignes. Et gare à qui tu mets devant eux comme modèle. Gare à qui tu leur donnes comme enseignant. Parce que si les enfants, tu les mets devant des enseignants qui vont les détourner de moi et qui, quand ils seront grands, me réuniront et se détourneront de moi, mais je t'en tiens personnellement responsable. Tu es responsable devant qui tu as mis tes enfants. Tu es responsable, l'Église de Dieu, si tu n'as pas fait le nécessaire pour mettre devant mes enfants des personnes qui me craignent, qui m'honorent, qui les enseignent en mon nom et qui les honorent eux-mêmes, qui les respectent. Moi, j'étais dans un mouvement qui avait le baptême de l'esprit, les dons spirituels, des enseignements bibliques du tonnerre. Ils aimaient Dieu, ils étaient consacrés. J'ai fait le BAFA pour les colonies. Vous savez ce qu'on m'a dit au BAFA ? Un dixième des enfants qui suivent les écoles du dimanche restent dans la foi. Un dixième. Et après, on ose penser que les écoles chrétiennes, c'est un amusement éventuellement. Ils sont où les neuf dixièmes ? Ils sont où les neuf dixièmes des enfants qui ne sont pas là ? Qui est responsable qu'ils ne sont pas là aujourd'hui ? Si ce n'est pas l'Église ? Parce qu'elle les a livrés à quelqu'un qui les détournait du cœur de Dieu. Ce n'est pas une possibilité. L'éducation chrétienne, c'est un nom, mais le mot que Dieu a dit, c'est « Lève-toi et enseigne à tes enfants, à me craindre, à me respecter, à m'honorer. » Et c'est un enseignement tout au long de la journée. Tout au long de la journée. Tu es responsable de cela. Tu es responsable parce que quand tu le fais, tu fais que derrière toi, les générations qui vont se lever derrière vont continuer à enseigner à leurs enfants. Elles vont continuer le mouvement que tu as commencé. Et ils vont prendre le relais et ils vont enseigner à leurs enfants. Mais si toi, tu ne le fais pas et tu ne te lèves pas, qu'est-ce qui va être transmis derrière toi ? Cette génération, il reste un dixième d'enfants chrétiens. Et après, c'est un centième, la deuxième génération. Le calcul est vite fait. La génération qui suit, si on ne l'enseigne pas, elle se détournera de Dieu et elle sera pire que celles qui l'ont précédée. Si j'ose revenir à Malachie 3, souvent on nous dit l'école, elle est très bien, non ? Les écoles publiques sont bien. C'est vrai, merci Seigneur, parce que c'est bien qu'on soit enseigné, c'est une grâce d'avoir pu apprendre à lire et écrire. Je suis reconnaissant de mes années d'études. Je suis reconnaissant de tous les enseignants qui ont pris soin de travailler à fond, de tous les enseignants qui donnent leur vie. Je suis reconnaissant des enseignants chrétiens dans le public. Que Dieu soit avec eux. Ils sont des témoins. Caroline, tu es un témoin. Tu es un témoin de Christ là où tu es. Tu as une bénédiction pour les enfants là où tu es. Mais là, c'est à l'Église que je m'adresse, c'est à la responsabilité de l'Église. On nous dit souvent que mais l'école, elle est bien. Mais alors pourquoi tous les mouvements chrétiens ils font des colonies chrétiennes? Pourquoi ne considère-t-on pas que les colonies non chrétiennes soient bien? Pourquoi est-on prêt à relever le défi des colonies chrétiennes et ne relève-t-on pas le défi des écoles chrétiennes? Si on a besoin des colonies chrétiennes, à plus forte raison d'écoles chrétiennes, où les enfants sont tout au long de l'année, il tournera le cœur des pères vers leurs fils. Et moi, je prie maintenant que le Seigneur tourne le cœur des pères de France, des pères des églises de France, vers leurs fils. Si le Seigneur doit tourner le cœur des pères vers leurs fils, c'est que quoi? C'est qu'il n'est pas tourné. On l'a peut-être cru, mais si le Seigneur doit tourner les cœurs des pères vers leurs fils, c'est qu'il n'était pas tourné. Et nous, en tant que père, nous devons demander pardon. Si vous permettez, je vais prier simplement. Papa, nous voulons te demander pardon. Pardon parce que nos cœurs n'étaient pas tournés vers nos fils. Ils étaient tournés vers nous-mêmes, vers nos besoins. On a aimé nos enfants, je pense, mais on n'était pas complètement tournés vers eux. On n'a pas réalisé le mandat que tu avais donné. Tu as dit, j'ordonne d'enseigner à vos enfants. J'ordonne afin qu'ils puissent le retransmettre, afin qu'ils soient formés dans ma connaissance. Et nous te demandons pardon, papa, pour toutes les fois où nous ne l'avons pas fait, parce que l'Église n'a pas relevé le défi et parce qu'elle reste aveuglée. Elle reste aveuglée sur le fait qu'elle a le mandat d'enseigner ses enfants. Et elle croit que souvent l'école du dimanche suffit. Seigneur, nous te demandons pardon. Et en ce moment de séminaire là-bas, en Suisse, nous voulons nous joindre en tant qu'Église qui a reçu ce mandat de couvrir aussi l'œuvre du Collège Daniel. Nous la reconnaissons. Nous reconnaissons cette œuvre comme une œuvre qui vient de toi, comme une œuvre qui tient à ton cœur, à la prunelle de tes yeux, papa. Et nous voulons nous réunir, même si nous n'avons pas d'activité particulière au sein de cette œuvre. Nous la bénissons, nous la chérissons. Nous sommes reconnaissants parce qu'elle nous permet d'obéir à l'ordre d'enseigner nos enfants dans les voies de l'Éternel, de leur enseigner la crainte de Dieu et de mettre devant eux des modèles selon le cœur de Dieu afin qu'il reste une génération qui craint Dieu, qui reste attachée au Père et qui ne tourne pas le jour du combat. Seigneur, nous reconnaissons aussi l'héritage des pères. Nous voulons te redire merci pour toutes les bénédictions, Seigneur, que tu déverses sur nos vies à cause de nos pères, de tous ceux qui nous ont aimés, qui ont prié pour nous, qui nous ont enseignés. Merci pour la bénédiction d'Abraham. Nous réclamons la bénédiction d'Abraham. Nous réclamons l'héritage des nations. Seigneur, nous voulons apprendre à recevoir la bénédiction, nous délier de la malédiction. Nous voulons apprendre à délivrer la bénédiction dans nos descendances et veiller à ce qu'il n'y ait pas de malédiction qui soit transmise. Seigneur, rends-nous sages. Rends-nous sages, Seigneur. Nous sommes une génération qui veut se lever, qui veut répondre à ton appel. Seigneur, nous te demandons la grâce de le faire. Et Seigneur, nous croyons que ce sera faisable parce que tu as libéré l'esprit d'Élie afin qu'il l'accomplisse dans cette génération. Nous disons, Seigneur, nous voici comme un seul homme pour répondre à ton appel. Seigneur, rends-nous fidèles. Seigneur, donne-nous la grâce. Seigneur, aide-nous. Seigneur, garde-nous d'être infidèles. Garde-nous de relâcher. Seigneur, garde-nous d'abandonner ce que nous avons entendu. Seigneur, donne-nous de resserrer les rangs, donne-nous de nous resserrer les uns avec les autres. Seigneur, donne-nous d'entrer, Seigneur, dans cette vision complètement. Nous bénissons Luc et Manu que tu as appelés comme une tête de pont. Seigneur, nous les bénissons dans le nom de Jésus. Que la grâce soit sur eux, la bénédiction sur leur maison. Et Seigneur, que la bénédiction aussi puisse couler au travers d'eux, sur tout ce que tu as mis autour d'eux. Et que la bénédiction coule sur Josué. Seigneur, nous réclamons la bénédiction sur Josué au nom de Jésus. Que nous sommes une église qui répond à ton appel. Seigneur, nous voulons être fidèles. Seigneur, rends-nous fidèles, papa, au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia, papa. Je termine. Je prie vraiment. Ben voilà, on va terminer, hein.